idée de cette formulation, c'était au cours d'une conversation avec un ami avec qui elle fait, parce qu'elle est du coup philosophe, mais elle est prof, je crois que son département c'est sciences politiques à Vancouver. Et puis elle a une pratique aussi, de plus en plus d'ailleurs, de... elle fait des films et elle fait de la poétique avec TH, poétique. Et c'est des lectures poétiques où c'est des pratiques comme le... c'est lié à l'astrologie, au tarot, au reiki, où en fait elle va faire des lectures comme ça, un peu performatives, mais qui ont aussi une dimension politique. Et donc, elle discutait avec la personne avec qui elle fait ses films, et elle lui disait en fait qu'elle était à la recherche de que son idée, c'était un peu comme l'idée d'une femme enceinte. Une femme enceinte, elle porte quelqu'un d'autre dans son ventre, et donc il y a deux personnes qui existent, qui sont différentes, mais qui ne sont pas séparées. Parce que... Et qu'elle était après quelque chose de cet ordre-là. Et c'est une... Je trouve que... En tout cas, moi, ça me parle comme image et comme rapport d'échelle. Je sais pas pourquoi je le vois en termes d'échelle aussi, où en fait, si on zoome vraiment, on voit une personne et puis on en voit deux. Et puis, bon, il y a quelque chose de presque, je sais pas, de moléculaire qui est assez intéressant. Et elle travaille pas mal sur la question du corps. Et c'est quelque chose qui revient aussi dans le discours des Black Studies en général. Elle a fait des textes, notamment un article que je peux partager ensuite qui s'appelle No Bodies, sur le fait qu'un corps, c'est quelque chose qu'on délimite, qu'on détourne, qu'on peut...
qu'on silhouette.
Voilà, exactement. Et là-dessus, il y a une figure des Black Studies qui s'appelle Hortense Spillers, qui a un texte, un peu le texte de Hortense Spillers, qui s'appelle Mama's Baby, Papa's Maybe.
C'est très beau.
Et dans lequel elle fait une distinction que je trouve assez intéressante entre l'idée de corps et l'idée de chair, flesh, en disant que la population africaine-américaine aux États-Unis, notamment, n'est pas que à travers l'esclavage et la ségrégation et la situation actuelle, malheureusement, en fait, il y a un statut de flèche, de chair, qui est disponible, qui est à portée de main, dans tous les sens du terme, et que le corps, c'est quelque chose, au contraire, qui est défini, qui a un propriétaire, qui est individuel, enfin, ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure aussi. Alors, pour revenir sur cette idée de différence, sur séparation, disons que les corps sont séparés et la chair n'est pas séparée. La flèche, chair, ça fait un peu christique, du coup, c'est un peu problématique. Mais, voilà. Est-ce que je sais pas quoi ajouter par rapport à ça?
Non.
Tu dis les corps sont séparés, mais pas la chair.
Ouais. La chair, il y a quelque chose de pas quantifiable, tu vois, ou moins délimité qu'un corps. C'est presque en soi délimité, un corps.
Mais c'est, pas... mais c'est aussi qu'un corps, notamment sur une scène, quand, on, quand tu travailles en tant que scénographe, un corps doit forcément se détacher sur un fond. C'est-à-dire que l'un des grands trucs de l'apprentissage de la scénographie, c'est qu'il y a un fond de scène et que le corps doit être lisible. Et il y a toute la métaphore du hiéroglyphe qui arrive derrière, qui est notamment via Artaud, mais via plein d'autres aussi, sur la lisibilité du corps comme un signe sur une page, la page blanche étant aussi, par analogie, assez proche de la boîte noire. Et il y a toute cette chose-là qui est que le corps est une... C'est pour ça que j'ai dit tout de suite une silhouette, si tu veux. C'est parce qu'en fait, ses contours sont repérables. Quand tu conçois un costume, le premier truc qu'on t'apprend pour faire des costumes au théâtre, c'est la silhouette. C'est-à-dire que ça devient un corps dessiné, lisible, scénographie. Hein. Je veux dire, on est toujours dans la même histoire. Et cette chose-là, elle est extrêmement, elle reste extrêmement prégnante. C'est-à-dire que ça moi, pour avoir fait des tonnes de scénos, à chaque fois, si j'ai très vite renoncé à faire des costumes, Dieu merci, on ne peut pas tout faire. Mais si tu fais une scénographie qui vient brouiller les corps, il y a forcément un moment où quelqu'un va te dire, mais on voit pas, on lit pas, etc., etc. Donc cette distinction entre le corps et la chair, même si c'est christique. Elle n'est pas du tout anodine. Parce que sur une scène, dans la tradition représentationnelle qui a quand même toujours cours, je veux dire, les écoles de théâtre où tu apprends le costume, tu apprends à faire des silhouettes d'abord. Tu vois. Une dramaturgie par la silhouette. Même Zouzou, vous avez rencontré, quand elle fait des costumes, elle dit « j'invente la silhouette ». Alors, Zouzou, elle est un peu particulière, c'est une prof de Lacambre, Julie ouais, Jens, voilà, qui est une très grande complice. Zouzou, elle dit, mais moi je fais une silhouette, mais moins on voit la silhouette, plus la silhouette est ordinaire, plus la silhouette est presque banale et presque invisible, plus j'ai réussi mon costume. Donc c'est comme ça qu'elle s'en sort, en fait, sur des questions éthiques et politiques et esthétiques. Mais cette histoire de la silhouette, c'est absolument central dans l'histoire du costume et de la scène. C'est pareil, on t'apprend à détacher un corps sur un fond. S'il n'y a pas de fond, le corps n'existe pas. Le fond de scène, les panneaux du décor, etc., etc. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point, encore aujourd'hui, c'est tellement ancré dans les imaginaires visuels et culturels que c'est une... Il faut vraiment avoir des complices pour te permettre de ne pas répondre à cette injonction. Et puis après, il ne faut pas sortir trop vite au bar à la fin du spectacle, parce que les gens vont râler. Mais c'est le travail de Self Unfinished joue avec ça. Par exemple, le spectacle de Xavier Leroy, c'est quand même c'est un spectacle où en fait c'est une boîte blanche et il est très simplement habillé, sauf qu'il a un costume qui fait que d'un seul coup, son corps humain, il fait apparaître des visions, on va dire, il a une espèce de robe, c'est une jupe ou une robe, je ne sais pas comment. Et alors d'un seul coup, il devient presque comme un animal, il devient des espèces de figures qui ne sont pas des monstres. Mais qui sont des figures qui font penser à des animalités, à des humanités différentes, à des je sais pas quoi, et qui troublent complètement la silhouette en réalité.
Et après Xavier Leroy et tout ça, il y a dans la, je sais pas si c'est de la continuation, l'écho, ça me fait penser aussi à Lia Rodriguez, chorégraphe brésilienne. Qui elle pour le coup aussi est dans cette démarche de foyer ou de qui fait ce type de travail mais à plusieurs corps.
Oui, on l'a vu l'an dernier le dernier ici. Merci. Pour rappeler, on l'a vu non c'est ça c'est pas Lia Rodriguez c'est Marlène Montero Freitas. Mais Lia Rodriguez on l'a vu au Maillon, un certain nombre d'entre vous étaient on l'a vu au Maillon et effectivement il y a l'impression d'un chaos. Dans la dernière forme, c'est extraordinaire ce truc. Et en même temps, je ne sais pas si tu l'as vu.
Non,
Incantando. Oui, Incantando. En fait, c'est des espèces de corps qui deviennent, qui sont informes, qui sont en groupe, qui sont je ne sais pas quoi. Et ça, c'est une espèce d'énorme chenille. Tu vois ? C'est souvent ça. Et de cette énorme chenille surgissent les figures, des nudités, des présences, des habillements, des déshabillements. C'est-à-dire qu'en permanence, ça passe son temps à passer de la chair à la silhouette. En permanence. Et des silhouettes furtive, souvent. C'est-à-dire qu'ils ne s'installent pas. Et qu'ils redisparaissent dans l'espèce de magma. C'est très, très, très fort comme truc. Ah, oui, bien sûr.
Moi, c'est comme ça que je comprends différence en séparation. Enfin, c'est...
Oui, ça s'entend.
Mais alors, je reviens à mes histoires d'échelle, mais c'est, pour moi, c'est vraiment... Et ça me faisait penser à ça aussi, quand tu disais la silhouette. Enfin, je sais pas si on vous dit ça en cours de séno, mais on me disait souvent ça, c'est tant que t'as pas mis ton bonhomme, on sait pas du tout.
Si, si, on vous le dit. On le dit, ça.
Et du coup, c'est vraiment le maître étalon, quoi. C'est le l'échelle de l'unité. Et cette, enfin bon, je rebondis un peu naïvement ou sur cette idée d'échelle, mais il y a l'échelle et puis l'échelle, enfin, je parlais tout à l'heure de molécules, mais l'échelle cellulaire ou je sais pas, vous savez, on dit qu'on est recouvert de bactéries, de parasites, etc. Donc en fait, on dit des multiplicités nous-mêmes, et puis si tu dézoomes complètement, ben, tu veux, rien qu'à l'échelle de cette salle, si on dézoome complètement, on est aussi plein de choses vivantes les unes à côté des autres. Enfin, c'est vraiment une histoire de je sais plus, on en parlait plus tôt, mais de point de vue ou d'optique, ou de quelqu'un qui disait la scénographie dans la tête, de c'est la façon de d'appréhender, de penser les choses. Si on pense les choses à notre échelle et à notre relative à notre propre échelle, effectivement, c'est, les choses sont assez limitées. Mais si tout d'un coup on dézoome vers le grand ou le petit, ou les deux fois, ça permet d'envisager les choses différemment.
Donc l'échelle humaine n'est plus le maître étalon. Ou moins.
Ou moins, ou est-ce que ça l'a jamais été ? Essayer de... Ah, c'est ça aussi, enfin, c'est comme ça que je comprends. La période dans laquelle on est.
Du coup qui sont en dehors des endroits où c'est facile de se renseigner, c'est facile de trouver en fait, dans par exemple des théâtres. Enfin, je ne sais pas si tu as étudié ça aussi, qu'est-ce qui fait les sociétés de ces mondes-là alternatifs. Voilà, je ne sais pas si c'est mon père, mais...
Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qui fait.
Bah, qui sont les publics en fait, les gens qui assistent à des choses, à des événements plus nichés en fait, et comment on entend parler en fait, comment ça se développe. Ouais, juste, je vais essayer d'être précis.
Ben, je sais pas ce qu'on peut. Je pense qu'il y a, d'une part, c'est les gens qui le font, et du coup, les gens qui entourent les gens qui le font, amis, famille, proches, et les gens qui, des alentours de là où ça se passe, qui passent par là par hasard, ou qui fréquentent ce lieu. Il y a un endroit, par exemple, à Marseille, dans un quartier pas loin de l'Estac, qui s'appelle Saint-Henri. Un bar qui s'appelle le Denis Bar, et là-bas il se passe une jam de musique latine
Et c'est très rigolo parce que c'est un bar le plus cliché du typique marseillais avec des trucs de l'OM partout, des écharpes et tout, et des piliers de bar extrêmement clichés aussi, qui boivent du pastis toute la journée et qui du coup se retrouvent au milieu de cette jam, mais qui en font partie complètement. Et ouais, la réponse que je peux faire, je crois, c'est ça. C'est ceux qui font, qui vont regrouper par interconnexion, et l'endroit où ça se passe.
Là, par rapport à ton exemple, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment ça s'est mis en relation. Hein, comment, effectivement, dans un bar qui semble un bar cliché, qu'est-ce qui fait que ça, les jams se sont, la jam s'est installée dans cet endroit ?
Bah parce que c'est un bar de quartier, qu'il y a des musiciens qui habitent dans le quartier.
Voilà, d'accord.
Et que c'est la possibilité. En fait, c'est aussi un bar avec le patron fait à manger. Donc, il y a à manger, à boire.
D'accord, donc c'est la différence sans séparation. Ah oui, non, c'est un exemple de différence sans séparation. C'est-à-dire que la jam, c'est le bébé du bar.
Ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
C'est... Tu vois, c'est dans le bar étant l'environnement, la matrice, et
ouais.
La jam est là-dedans. Et,
ouais.
Et c'est vrai qu'on ne choisit pas sa mère.
Alors là,
non, mais je veux dire que non, c'est vrai.
C'est à dire,
on n'en restera pas.
Zachary, tu voulais
parler? Ouais, moi c'était pour revenir sur ce que je disais avant par rapport à la silhouette et par rapport à la façon de penser par rapport à une échelle humaine. Ça faisait un peu écho à ce qu'on disait avant sur un peu à quoi sert le théâtre, pourquoi les gens vont au théâtre. Et peut-être que du coup, les gens qui vont au théâtre, c'est un peu paradoxal, mais iraient pour voir quelque chose qui soit hors échelle humaine, qui est un peu ce contraste-là de sur le besoin d'imaginaire et de ne pas revoir sur une scène ce qui serait possible qu'il arrive dans la salle. Question toujours sur ce rapport-là de penser la projection à l'échelle humaine par rapport au désir d'un public.
Ouais. J'ai pas d'exemple à l'esprit sur. Enfin, si, mais t'as raison. Hors habitude aussi. Enfin, ouais. Mais ça va, ça résonne l'un avec l'autre, quoi, l'échelle, l'habitude.
Oui, hors habitude, ouais. Mais hors habitude, est-ce qu'on a besoin, entre guillemets, de tout cet appareillage qui est la scène théâtrale? Enfin, moi, par exemple, c'est une question. C'est une autre manière de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je me rends compte qu'il y a énormément de situations qu'on vit, et puis moi j'en ai vécu énormément, en plus, notamment hors d'Europe, ou sur le continent africain, ou à Mayotte, n'importe, où des situations, pour le coup, relativement scéniques, ou relativement performative ou musicale ou de jam session ou d'événements, même des événements annoncés, s'inventent simplement par un agencement des corps quelque part. Et même des... Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles qui avaient lieu dans la rue, tu vois, et où il y avait toute une intentionnalité qui est très liée à l'histoire de la scène et à nos pratiques, tu vois, mais qui en même temps se déployait au mieux sur une place, n'importe, enfin, etc. Et du coup, il y a, c'est quoi cette espèce de sortie de, enfin, je ne sais pas comment dire, mais hein? Non, mais le terme que dans le terme que tu disais, pardon, j'ai un trou de mémoire. Quand tu rebondissais sur ce que disait Zachary. Hein? Oui, l'habitude. La question de l'habitude. Et bon, voilà, moi, il y a un truc autour de ça, en fait, sur le fait que dans le fond, on peut très bien poser nos gestes, continuer à faire nos histoires, mais qu'on n'a pas forcément besoin de tout cet appareillage, quoi, pour qu'il existe.
Et en même temps, tu sais bien, et c'est de plus en plus flagrant dans nos contextes urbains occidentaux, que c'est de moins en moins possible de poser ces gestes-là
oui.
dans nos espaces qui sont soi-disant publics, mais qui... Donc c'est aussi pour ça que tout d'un coup, il y a des lieux où ça se fait, où c'est autorisé, où... Et qu'effectivement, la théâtralité, elle disparaît des espaces, enfin, disparaît pas des espaces quotidiens et urbains, parce qu'elle existe indépendamment de...
Dans l'infraordinaire.
Dans l'infraordinaire, oui, tout à fait. Mais que, globalement, pour monter des événements comme ça dans nos villes, bah, c'est super compliqué. C'est quasiment plus compliqué que d'aller dans une salle.
Oui, mais
ça, c'est récent, par contre.
Oui, c'est pour ça que je parle des lieux non européens. C'est pour ça que je parle des milieux non européens.
C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de choses
ailleurs.
Ailleurs, et qu'on est très heureux de faire des choses ailleurs.
J'ai vu ta main.
Mais je pense que ce rapport-là au sensible et à l'extraordinaire, comme vous dites, nous on l'a parce qu'on est issu d'un secteur artistique. Et toutes les personnes qui sont dans les salles, du théâtre, n'ont pas forcément, et c'est pour ça qu'elles viennent au sein d'une salle. Par contre, je suis tout à fait. Enfin, du coup, ça, c'est plus dans l'ordinaire et dans nous, ce qu'on va être émerveillé pour des choses, on va voir des choses qui sont semblables à un arsenic dans, la, enfin, dans le quotidien. Ça, je trouve ça très bien aux artistes. Mais par contre, dans ce qui est de déplacer le théâtre ou la performance juste devant, ça, moi, je suis. Mais le sensible, il est compliqué, je trouve, parce que nous, on est versé dedans, et depuis qu'on a fait des études, dedans, on a passé par là, quoi. Il y en a qu'on vit qu'on leur amène aussi.
Pardon ?
Il y a des personnes qui ont envie qu'on leur amène.
Oui.
Amplificatrice de l'espace scénique.
Oui, c'est une machine à amplifier. Oui.
C'est un amplificateur.
Peut-être juste pour revenir sur ce que dit Camille, il y a aussi, dans la place de ceux qui créent de prendre l'art artistique, et justement de verser dans ce milieu-là, c'est un peu comment trouver la façon d'oublier un peu ce qu'on est pour nous remettre dans une situation. Parlerait à un plus grand nombre, en tout cas, ou un public qui serait un public qu'on cherche à la fin, de comment on essaie de se déconditionner de ce qu'on fait pour essayer de vraiment toucher juste.
Et tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure du plus grand nombre et de faire institution ou. De
manière
générale ou
enfin. Sur une question personnelle, tu n'as pas fini.
Non, j'ai pas fini.
Non, j'ai... C'est bon.
Mais non, mais je veux dire.
Excusez-moi.
Ah, pardon.
Non.
J'ai oublié, je sais plus. Mais enfin, bon, bref, voilà.
Tu parlais de la question du plus grand nombre.
Ouais.
Et justement, par rapport à ça, j'ai cru comprendre que tu avais été assistante de Castellucci. Comment tu as vécu ça? Parce que s'il y a bien une question par rapport à la séparation, s'il y a bien un metteur en scène en ce moment qui est à l'endroit de cette histoire de la séparation, c'est bien lui, non ?
Ouais. C'était.
Est-ce qu'on peut faire une description de Castellucci ? Moi, je connais pas personne.
Ah. Je veux dire, quelqu'un peut en quelques mots dresser une sorte de
portrait,
portrait de Castellucci, ce qu'est le théâtre de Castellucci, comment est-ce qu'on pourrait caractériser sa pratique théâtrale. Il y en a qui ont vu de Castellucci déjà ici, ouais. Garance, tu veux? Ok.
Après le reste, je vous.
Il y a d'autres mots à rajouter ?
Bah, c'est un metteur en scène du théâtre italien qui est aujourd'hui un des artistes les plus respectés, qui tourne le plus, enfin, qui fait de l'opéra, du théâtre, etc., etc., qui a une énorme carrière, qui est très cher. Très très cher, et qui assume absolument avec des moyens considérables la boîte. C'est-à-dire, c'est ce que j'en parlais un tout petit peu la semaine dernière, mais qui assume la relation entre le geste qu'il pose, qui est souvent un geste provocateur, extrêmement bien écrit, extrêmement bien fait, qui pose des questions métaphysiques, éthiques, politiques. Enfin, politique, je ne sais pas trop, justement, c'est un peu le débat. Il en a posé, quand même. Il fut un temps où il en posa. Mais en assumant complètement la frontalité, la machinerie, etc., etc. Et en nommant très clairement le fait que l'espace de liberté de tout ça, c'est dans la tête du spectateur. Après, c'est quelqu'un qui produit des images très puissantes. Moi, il y a des choses quand même que j'ai beaucoup aimées. Il y a vraiment des images ou des situations parfois très puissantes. Je me souviens d'une en particulier qui assume complètement la représentation, etc., etc. Bon. Ça vaut ce que je dis, mais voilà. Si vous avez l'occasion de le voir une fois, parce que ça tourne beaucoup, hein, faites-le, parce que c'est quand même c'est intéressant. Donc toi, tu dis que vous n'avez jamais parlé de politique.
Non, c'était il y a très longtemps.
Tu l'as cité sur une création ou
sur deux.
C'est quoi ?
Hey Girl, à la création, Girl, ouais, okay. Après à Avignon, et après à Avignon, Divine Comédie. Ok. Moi, j'ai. L'impression. En fait, ce qui m'intéresse dans son processus, dans sa façon de travailler, est que c'est. Effectivement, il est dans. Alors là, pour le coup, il est dans la précision.
Extrême, ouais.
De l'image, mais c'est. Mais après, c'est à couper le souffle, quoi. Il est tellement dans la précision que c'est. Et ce qui est intéressant, enfin, je trouve, c'est qu'en fait, il se met. Alors, je sais pas s'il fait toujours ça, mais il est dans un espèce d'état d'hypnose. Quand il crée une image, il est pas vraiment là, quoi. Enfin, il y a cette espèce de précision extrême de on va régler le laser pour qu'il tombe là, pile là, mais en même temps, il est dans un état, c'est de la logique purement visuelle, purement, je ne sais pas si c'est visuel le mot, mais de l'image, de l'ordre de l'image. Et c'est ça qui me parle et qui me plaît, c'est que ce n'est pas quelque chose de raisonné, de genre... Ah, après, c'est vrai qu'il dit, oui, ça veut dire ci, ça veut dire ça, mais Moi,
je pense que
moi,
c'est juste quelque chose
pas,
qui rajoute.
En tout cas, moi, ça me. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, par contre, c'est cette espèce de. Il va jusqu'au bout de. Ok, c'est l'image qui gouverne ou qui règne. Mmh. Et il va aller chercher la matière qui va le mieux prendre la lumière. C'est des histoires, voilà, c'est des logiques de lumière, c'est des logiques de matière, c'est des logiques de texture. Et ça, je trouve ça hyper intéressant.
Oui, il y a ça.
C'était comment, humainement ? Très intéressant. C'est quelqu'un... Il y a vraiment une espèce de hiérarchie autour de lui. Il est sur un petit chapitre. Un peu une grande montagne, bon, bref, sauf que lui, humainement, il est très, très à l'écoute et attentif, et avec les techniciens, les techniciennes, les gens des lieux qui l'accueillent, c'est quelqu'un de très attentif. Donc c'était très intéressant. Après, autour de lui s'organise toute cette hiérarchie de... responsable du son, responsable de l'univers, responsable de bain. En plus, avec cette il y a un peu derrière le décorum de la compagnie italienne et du coup des rapports aussi entre les différents statuts et les différents genres. Enfin, c'est très italien à l'ancienne, quoi. Mais lui, en tant que personne, c'est quelqu'un de très à l'écoute.
Et t'as fait quoi avec lui ?
Bah, j'étais la petite main. Et puis, comme c'était aussi sur des créations qui se passaient en France, c'était beaucoup aussi de la traduction et de l'interface avec les groupes de figurants, traduire les trucs, fabriquer les pattes de...
Ouais, espèce de pâte.
La grosse pâte, là, j'étais en charge de cette grosse pâte.
Cette pâte qui dégouline.
Il fallait qu'elle dégouline, bien précisément. Enfin, des trucs très, très. Concrets. Okay.
Valentine, vas-y.
C'est peut-être passé du coq à l'âne, mais j'ai vu que j'ai pas du tout lu le point de vue. Mais j'aimerais bien savoir quel était ton rapport avec le diversité et comment tu l'as rencontré.
C'est par hasard dans mes recherches que je suis tombée sur les performances qu'il faisait dans les années 60. Je ne savais pas du tout qu'il avait fait des performances. Et du coup, j'ai cherché Alina des reste parce que vraiment c'est difficile à trouver et j'ai reconstitué comme ça une espèce de collection de petits morceaux vidéo de cette performance qu'il a fait à Paris et je me souviens plus précisément comment je suis entrée en contact avec lui mais je sais qu'il était intéressé par les vidéos parce qu'il les cherchait lui-même. Et du coup, c'était les vidéos, ok, je veux bien te rencontrer. Et après, les rencontres, c'était assez à l'image de Jodorowsky. C'est-à-dire que l'été, il passe ses vacances dans un palace sur la promenade des Anglais à Nice, le Negresco. C'est vraiment le palace à l'ancienne avec les coupoles roses et les gardes suisses à l'entrée et tout ça. Et du coup, je le rencontrais. Au Negresco, dans le bar du Negresco, dans cette espèce de truc. Et on partait dans des conversations qui duraient des heures et des heures. Où... C'est quelqu'un d'incroyable, quoi. Il est habité. Vraiment, il est complètement persuadé d'être le Messie. Tu finis par y croire au bout de quelques heures. Enfin, c'est incroyable.
Est-ce qu'il peut tirer le cas ?
Non. Non, mais j'ai fait une séance après avec lui à Bordeaux, au musée d'art contemporain de Bordeaux, où en première partie, c'était assez rigolo d'ailleurs, à chaque fois c'était un peu côté rocambolesque comme ça, où il tirait les cartes aux gens dans le public, comme ça, ça faisait vraiment la roue de la fortune, quoi. Il était là avec son micro et les gens, je me souviens plus du détail, mais du coup, ils projetaient les cartes sur un micro proche, et ils décrivaient les cartes, et le gens étaient là dans le micro. Mais voilà, c'est... Ce qui était fou avec Jodo Tromsky, c'est la mine de poids au Negresco. Je suis arrivée un peu en avance et du coup je suis allée aux toilettes aussi pour voir les toilettes du Glasgow parce que c'est quand même quelque chose. Et en sortant des toilettes, je les croisais qui arrivaient vers le bar où on avait rendez-vous. Et en fait, ils ne savaient pas, enfin ils pensaient que personne ne voyait, etc. Et on aurait vraiment dit un petit vieux, enfin, tout comme ça, il marchait comme ça. Et donc je l'appelle et là il se retourne, on voit et tu sais pas. Hey, voilà. Wow, performance.
Ouais. Camille, tu avais une question? Tu avais levé la main.
Ouais, je suis bien.
Et on peut s'arrêter quand on veut, hein. Il n'y a pas de... Si on arrive au bout de la discussion, voilà quoi.
Et par rapport aux performances, lui, qu'est-ce qu'il... Parce que c'est, il aime beaucoup plus, enfin, le connaît plus par rapport à ses films. Et par rapport à lui, etc. Mais qu'est-ce qui t'a... Je sais pas où mène ma question. Hein, performance et Jodorowsky, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, il a fait pas mal, c'est plus lié au côté tarot, mais à partir de... En fait, quand il a arrêté de faire la performance qu'il a fait à Paris, c'est sa dernière. Après, il a décidé d'arrêter, ça faisait un moment qu'il en faisait, pas mal au Mexique avant. Il y a l'idée... Donc après avoir fait des performances, il a fait ce qu'il appelle la psychomagie. Et le principe de la psychomagie, tu connais, c'est d'accomplir quelque chose, une action qui va avoir une performativité complètement métaphysique. Par exemple, je ne sais pas, moi, si j'amène ce gobelet en haut, en haut de quoi ?
La cathédrale.
Voilà.
La cathédrale.
C'est un peu modeste. Hein,
c'est modeste.
Dire, en haut d'une
malaya.
C'est
modeste. Elle est grande. Elle est grande.
Bon, d'accord. Bon, bref. Ça va résoudre, répondre à une question que j'ai posée, etc. C'est vraiment dans ce cadre-là. L'idée de la performance, c'est le fait d'accomplir des actions qui sont esthétiques parce qu'elles sont organisées autour d'une valeur purement symbolique. Dans la performance dont je parle dans le livre, c'est vraiment ça, quoi. Il règle par exemple ses problèmes avec son père et du coup il va avoir une tête de taureau qui représente la tête de son père, qui se met sur sa propre tête, et puis ensuite il découper les testicules en animal, etc. Enfin, il y a des trucs comme ça qui deviennent spectacles après, enfin, par conséquence, mais qui pour lui, en fait, c'est vraiment la dimension performative de la performance.
Rituel, quasiment.
Quasiment rituel. Ouais.
Rituel
ouais.
De guérison.
Ouais.
Rituel quoi?
De guérison.
Ah, de guérison.
De psychoaction.
Mais que tu peux totalement, enfin, et c'est là où c'est intéressant, c'est ce que j'essaie de d'étudier dans ce chapitre, c'est que lui, par contre, s'oppose pas du tout à la question du théâtre, à la question de la représentation. En fait, ça ne concerne pas. Son problème, il n'est pas là.
Il pose un acte Enfin, il ne se pose pas la question, effectivement, de l'étiquette qu'on va mettre sur cet acte-là. Enfin, ça me fait penser à ce que dit Motten dans l'interview à la fin, là, dont on parlait ce midi, sur le fait que, sur cette question des zones floues, enfin, des frontières floues, et du fait de déconstruire, en fait, les schémas qu'on a, en fait, entre les schémas de... esthétique ou institutionnelle qu'on a, et que la question est qu'on peut très bien faire quoi que ce soit dans une action performative dans un théâtre ou ailleurs. Je sais pas, la façon de déconstruire les choses, et que c'est ça part du cœur de l'action et de la pensée de l'action qui va que la question que c'est l'acte qui va produire son identité, en un sens. C'est que c'est pas le cadre qui va produire, qui va légitimer l'acte. C'est l'acte qui se légitime tout seul, ou qui se pose, en fait, à quelque endroit où il se pose. Non, c'est un peu... J'étais plus clair, ce midi.
C'est vraiment... ça me fait penser... Il insiste beaucoup, Jodorowsky, sur... par contre... Bon, ok, le théâtre, ok, tout ça, mais par contre, il y a cette idée de l'origine, ou de quelque chose qui serait pensé en avant, à préméditer, etc. Donc là, ce qui importe pour lui, c'est d'effectuer, de commettre une action, plutôt que de la prévoir et de juste l'exécuter ensuite. Et ça me fait penser... à cette idée aussi de qui est présente chez Motten. Motten, une fois, il m'a dit un truc, c'est un peu bateau, mais bon, ça m'a parlé. C'est l'important, c'est pas d'où on vient, l'important, c'est là où on veut aller. Et il y a cette idée, voilà, de c'est pas, enfin, dans la représentation, il y a toujours cette idée de chronologie et de autorité de ce qui était avant sur ce que tu fais maintenant. Et il y a cette idée chez Jodorowsky et chez Motten de on part de là et puis après on voit où on va. Et j'aime bien cette image de
il n'y a pas l'heureux, quoi.
Il n'y a pas l'heureux, et puis en fait il n'y a pas
que présentation.
Où il peut y avoir l'heureux, mais ça ne veut pas dire que ce qui est avant c'est mieux,
ouais.
Ou plus autoritaire, ou plus authentique, ou plus valable, ou plus légitime.
Oui, légitime. Mmh. Oui. Oui. On arrête là ?
Il est 17h01.
Il est 17h01 ? Ben, on est bon. Bon, bah, écoute, merci.
Merci. Merci. Merci.